France Inter.
Le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour à tous. À la une ce matin, opération d'origine contrôlée dans les supermarchés. Après les promesses du gouvernement aux agriculteurs, la direction de la concurrence et des fraudes passe à l'action. Reportage dans la banlieue de Lyon dès le début de ce journal avec des inspecteurs qui vérifient le pédigré des fruits et légumes. Les tracteurs sont rentrés dans les fermes, mais les raisons du malaise agricole persistent. On s'intéresse ce matin aux agricultrices, grandes oubliées de la mobilisation de ces derniers jours. Une première ministre républicaine pour l'Irlande du Nord. Après 2 ans de blocage, la province britannique va retrouver un gouvernement. On vous racontera la mésaventure d'un septuagénaire normand qui doit prouver à l'administration que non, il n'est pas mort. Et puis la déculottée des rugbymen français face à l'Irlande hier soir en ouverture du tournoi des Six Nations. On y revient dans le journal des sports de Guillaume Batin. Avant, votre invité Ali et Marion.
La grande historienne Annette Wiewiórka, spécialiste de la Shoah, elle publie aux éditions du Seuil Anatomie de l'affiche rouge, plaidoyer pour que les résistants Missak et Méliné Manouchian n'entrent pas seuls au Panthéon.
Février 1944, février 2024, concordance des temps. Vos questions, chers auditeurs, vos réactions, vos analyses au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
C'est l'une des nombreuses promesses faites aux agriculteurs pour qu'ils lèvent leurs barrages, plus de contrôle pour faire respecter la loi Egalim, mise en place pour assurer aux agriculteurs un revenu minimum, et aussi des contrôles pour protéger les produits français de la concurrence étrangère. Ni une ni deux, la direction de la répression des fraudes renforce en effet ses opérations sur le terrain. En exclusivité pour France Inter, Agnès Soubiran a suivi une équipe d'inspecteurs dans la région lyonnaise, à la recherche de produits étrangers faussement vendus comme français.
Dehors, les toutes dernières consignes avant de rentrer dans cet hypermarché de la banlieue sud de Lyon.
Présence des étiquetages, véracité des étiquetages et envoi à chambre froide pour vérifier. Parfait.
Bonjour, directeur de l'hypermarché.
Laura Landrieux et Abdelali Bourras, les deux inspecteurs, se dirigent rapidement vers le rayon des fruits et légumes.
Oui, sur les champignons, on en a souvent qui viennent de Pologne. Du coup, là, on a les pré-emballés, donc on a l'origine directement sur l'étiquette. Ça permet de vérifier directement, donc ça, on a pu voir que c'était bon. Par contre, sur les produits qui sont en vrac, ils sont annoncés comme étant français, mais on va demander la facture d'achat pour vérifier.
Étiquette, cagette, emballage, tout est passé au crible.
Les tomates, on va dire les choux.
Les kiwis.
Les courges.
On a tous les bons livraisons, mais c'est en vrac à l'arrivée. Hein. Donc, on peut retourner les pages.
Des contrôles qu'observent avec attention les clients.
Bah, oui, moi je trouve que c'est bien. On ne peut pas manger de la fruit.
186 contrôles ont ainsi été menés l'an dernier à Lyon, avec des anomalies dans la moitié des cas. Et c'est toute la filière qui est sous surveillance. Mathias Tinchamp, de la direction départementale pour la protection des populations.
On a eu le cas, nous, cette année, pour un grand restaurateur qui mettait en avant des asperges des Landes dans son menu, alors qu'après vérification, on s'est aperçu que, sur une longue période, il n'avait acheté que des asperges allemandes.
Des contrôles qui vont donc se multiplier. Le directeur de l'hypermarché le sait. Cette fois, tout était en règle.
Agnès Soubiran, on les a vus depuis 10 jours dans les barrages, sur leurs tracteurs, éleveurs, céréaliers, viticulteurs, des hommes, très souvent, mobilisés pour réclamer des revenus plus dignes. Et on a peu entendu les agricultrices. C'est symptomatique de la difficulté des femmes à exister dans ce milieu encore dominé par les hommes. Ajra Mohamed a rencontré 2 futures agricultrices, quadragénaires en reconversion. Elles sont en formation au lycée agricole de Laval.
Tout plaqué pour élever des vaches laitières. C'est le choix de Karine, ancienne restauratrice en Mayenne. À 40 ans, cette reconversion peut en surprendre certains, mais elle assume.
Déjà, c'est un projet de vie. Moi, c'est pour rejoindre mon conjoint, qui lui est déjà installé. Et puis, l'agriculteur, ça reste quand même un beau métier, même si c'est dur. La nature, il y a le travail à l'extérieur, il y a tout ça qui emporte aussi.
Restent les préjugés qui persistent.
Moi, on m'a clairement dit, c'était une boutade. Conseiller bancaire qui m'a dit, de toute façon, la place de la femme dans une ferme, c'est la cuisine.
Autant vous dire que la boutade n'est pas très très bien passée du tout.
Annabelle, elle, rêve d'avoir sa propre exploitation pour lancer son élevage de brebis. Mais cette Bretonne de 45 ans, ancienne travailleuse sociale, a déjà du mal à franchir les premières étapes vers l'installation.
Quand j'ai cherché un stage, on m'a clairement dit « De toute façon, vous êtes une femme, vous n'y arriverez pas et le travail agricole est trop dur pour vous. » Il faut toujours trouver qu'on y arrive, qu'on a les capacités. Enfin voilà, c'est fatigant des fois.
Selon un rapport de l'ONG Oxfam France, les femmes agricultrices gagnent en moyenne 29% de moins que les hommes. À la retraite, les écarts de pension se creusent également. Et pourtant, malgré toutes ces données, Karine et Annabelle s'accrochent à leur objectif.
Des doutes, il y en a toujours, oui. Envie de revenir en arrière ? Pas du tout.
Leur seul regret, que le sujet des inégalités entre hommes et femmes dans la profession n'ait pas été davantage abordé pendant cette crise agricole.
Ajra Mohamad. Depuis hier soir dans le sud-est, la circulation sur l'A7 et l'A9 est totalement rétablie. Toutes les autoroutes d'Île-de-France sont également rouvertes. Certains barrages tenus par la Confédération paysanne sont toujours en place, notamment sur l'A43 au péage de Saint-Quentin-Falavier en Isère. Et puis une nouvelle journée de grève annoncée dans l'éducation nationale à l'appel des syndicats d'enseignants. Ce sera mardi prochain, une mobilisation pour de meilleurs salaires et contre certaines réformes prévues par le gouvernement, comme la création à la rentrée prochaine de groupes de niveau en français et en mathématiques en 6e et 5e. Des groupes de niveau qui risquent, craignent les professeurs, d'accentuer les inégalités entre les élèves.
Il est 8h06 et à l'étranger, Corinne, une première ministre pour l'Irlande du Nord.
Après deux années sans parlement ni gouvernement, en raison du blocage du parti unioniste qui refusait de participer aux instances politiques nord-irlandaises, tant qu'un accord sur les conséquences du Brexit n'était pas trouvé. Et c'est une élue républicaine qui va être nommée, correspondance à Londres de Richard Place.
Il y aura aujourd'hui un symbole important. La nouvelle première ministre sera désignée par la majorité et c'est le Sinn Féin, partisan d'une seule Irlande, vainqueur des dernières élections il y a 2 ans, qui va occuper ce poste. On sait déjà que ce sera Michelle O'Neill.
Pour la toute première fois, quelqu'un du Sinn Féin, une nationaliste, une femme républicaine, sera première ministre. Ça en dit long sur le changement dans toute l'île.
Purement symbolique, car la Constitution oblige à nommer un vice-premier ministre qui possède les mêmes pouvoirs. Là, c'est le DUP qui prendra le siège. Le DUP qui a chuté lors des élections et qui veut transformer cette journée en succès. Jeffrey Donaldson, leader de ce mouvement pro-Royaume-Uni, affirme que ces 2 ans de blocage ont débouché sur un accord primordial cette semaine.
Ce sera un véritable bénéfice pour les entreprises nord-irlandaises. Nous sommes assurés de profiter pleinement des accords britanniques de libre-échange.
Les marchandises arrivant de Grande-Bretagne seront moins contrôlées. Les formalités administratives allégées. Suffisant pour calmer la colère des unionistes qui s'estimaient bernés par les conservateurs britanniques. À eux aussi, ils avaient menti sur les effets du Brexit. Londres, Richard Place, France Inter.
Joe Biden avait promis des représailles après la mort de 3 soldats américains en Jordanie. Les États-Unis ont frappé hier soir des cibles pro-iraniennes, accusées d'être à l'origine de l'attaque. 85 cibles visées en Irak et en Syrie sur 7 sites différents. Et dans l'est de la Syrie, au moins 18 combattants pro-iraniens ont été tués. Opération réussie, affirme le président américain, qui dit ne pas vouloir d'escalade dans la région. Et dans ce contexte, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, entame aujourd'hui une tournée au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie américaine aussi est attendu dans la région à partir de demain. Enfin, des frappes israéliennes intenses touchent ce matin la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où plus d'un million de Palestiniens se sont réfugiés. L'Écosse a remis Vincent Renoir à la France. Cet homme, condamné à plusieurs reprises pour négationnisme, avait été arrêté il y a plus d'un an. Transféré hier à Paris, il a été mis en examen, notamment pour provocation à la haine, et placé sous contrôle judiciaire. C'est une mésaventure dont on se passerait bien, devoir prouver à l'administration que l'on n'est pas mort. C'est ce qui est arrivé à cet habitant de Bonneville, sur Touques, près de Deauville. Il a appris par sa caisse de retraite qu'il était considéré comme décédé. À 75 ans, ça n'a pas du tout amusé Jean Poulain, d'autant que l'erreur n'est pas simple à rectifier. Jeanne Stémard de France Bleu Normandie l'a rencontré avec sa fille.
C'est un courrier de la Sécurité sociale qui a alerté le retraité.
J'ai simplement reçu un courrier de la Sécu me disant que j'ai de fournir un certificat de décès, mais on me l'adresse à moi qui suis censé être mort.
La banque s'apprêtait même à bloquer ses comptes. Depuis le 29 janvier, Jean Poulain subit une cascade de conséquences administratives. administrative.
Maintenant, il faut que je me batte avec la Sécu, parce que les remboursements, quoi que ce soit, les spécialistes que je consulte, je serai obligé de les avancer de ma poche.
Une situation qui révolte sa fille Sandrine. Elle ne comprend pas comment une telle erreur a pu être commise.
C'est qu'une présomption, hein. Et je lui dis, mais dans ces cas-là, même sans vous fournir la moindre attestation officielle, vous appuyez sur le bouton et vous coupez les vivres à quelqu'un. Vous le faites mourir administrativement.
La caisse de retraite, de son côté, leur promet que tout sera rétabli dans quelques jours. C'est ce qu'espèrent Jean Poulain et sa fille Sandrine, même s'ils craignent que la situation ne mette des mois à se régler.
Alors d'après la caisse de retraite, le dossier de Jean Poulain a été régularisé. Il sera accompagné dans ses démarches administratives pour que tout rentre dans l'ordre. Le père et sa fille attendent aussi des excuses. De critique littéraire à écrivaine, c'est le pas franchi par Virginie Bloch-Lainé. Familière des auditeurs de France Culture et des lecteurs de Libération, elle publie son premier livre, Profil perdu. On y retrouve son art du portrait à travers l'évocation des hommes qui ont façonné sa vie. Ilana Mor-Youssef.
C'est un livre difficile à résumer et c'est sans doute un gage de qualité. Il faut donc suivre l'autrice dans le labyrinthe de sa vie, s'attarder avec elle devant la figure d'un grand-père, d'un oncle, d'un amoureux et surtout de celui par qui tout commence, le père.
J'ai écrit le livre à un moment donné de ma vie où je m'interrogeais sur les hommes vers lesquels j'allais. Je me demandais si je ne cherchais pas en eux quelque chose que mon père avait, qui était la mélancolie. Il y avait des douleurs sur lesquelles il appuyait tout seul et il sortait de ses gonds, il se mettait hors de lui et il devenait irrationnel.
Cette mélancolie, il est arrivé à Virginie Bloch-Lainé de la retrouver chez d'autres. Mais ce qui frappe dans ce voyage à travers la généalogie familiale et amoureuse, c'est à quel point elle incarne un pan de l'histoire de la France. Les hommes de ce livre sont tous différents, mais...
Ils ont en commun d'être traversés par l'histoire. Mon père a été appelé en Algérie et ça change le comportement de ces hommes par rapport à ce que je vois des hommes d'aujourd'hui ou même des femmes d'aujourd'hui. Il y avait peut-être moins de temps consacré à soi.
Virginie Bloch-Lainé possède l'art de peindre ses modèles sans complaisance mais sans jamais les maltraiter. Profil perdu à la délicatesse d'une estampe japonaise.
Et le livre est paru aux éditions Stock.
8h12 sur France Inter, le journal des sports.
Avec Guillaume Batin ce matin, bonjour.
Bonjour Corinne.
Alors on en parle largement, hein. Depuis ce matin, le 15 de France a complètement raté son entrée dans le tournoi Destination.
Ah oui, ça va faire la journée d'Ali Badou, hein. Premier match du tournoi.
Absolument pas.
Et première défaite face aux 65 000 spectateurs du stade Vélodrome de Marseille hier soir. Sévère défaite, même 38-17 face au tenant du titre irlandais. 5 essais à 2, ça commence mal, très mal, Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France.
Une défaite pour ouvrir le tournoi, c'est pas positif. On a perdu au stade Vélodrome pour notre premier match, la première mi-temps. Difficile aussi, puisqu'on a joué à 14 très très vite. Très très vite, on a compris que le match se jouerait à 14. Un premier carton jaune, puis un deuxième. Ça nous a amené dans le dur très vite. Et 5 essais encaissés. Il y a trop de déceptions pour être lucide dans l'analyse. C'est un moment, on va dire, dur. Mais le tournoi continue. Il reste 4 matchs à jouer. Il faut qu'on lève la tête et qu'on digère cette défaite.
Et la digestion peut durer une semaine jusqu'à samedi prochain. Le prochain match des Bleus, ils joueront en Écosse. Les Écossais qui se déplacent au Pays de Galles cet après-midi à 17h45. L'autre rencontre de cette première journée, c'est Italie-Angleterre à 15h15.
De l'Ovalie, on passe au ballon rond. En attendant la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Strasbourg, 2-1.
À 10 jours du match, précisément face à la Real Sociedad au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, ont désormais 9 points d'avance sur leur dauphin, le Nice. Mais Paris a souffert hier soir à la Méno et ça agace l'entraîneur espagnol quand on lui fait remarquer, Luis Enrique.
C'est ça le football, il n'y a pas qu'une équipe qui joue. L'objectif est clair, c'est de dominer le match, mais il n'y a pas que le PSG qui joue. Ce que je veux, c'est gagner, c'est tout. Que la manière me plaise ou pas, peu importe. Mais quoi, Strasbourg n'a pas joué? Il n'y a que le PSG sur le terrain? Ça ne suffit plus de gagner, c'est ça? Je répète, il n'y a pas qu'une équipe qui joue. Vous croyez qu'il faut gagner tous les matchs 4-0 et être extraordinaire? Non, non.
non ?
Voir Kylian Mbappé a inscrit son 20e but en Ligue 1 de la saison. Et ça continue cet après-midi, la Ligue 1, avec deux matchs. Rennes reçoit Montpellier et Lens va jouer à Nantes. On regardera aussi pour les fans de foot les quarts de finale, les deux quarts de finale de l'après-midi à la Coupe d'Afrique des Nations. À 18h, le choc entre le Mali et le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et à 21h, le petit poussé à ce niveau de la compétition, le Cap-Vert face à l'équipe qui a sorti le Maroc, l'Afrique du Sud.
Allez, on termine avec les meilleurs judokas qui sont à Paris pour la grande répétition avant les Jeux Olympiques.
Le Grand Slam de Paris, c'est le plus grand tournoi au monde. On va y voir nos meilleurs combattants, Clarisse Agbegnénou et Teddy Riner. Et pour l'instant, les Français sont au rendez-vous. 4 médailles hier pour la première journée de compétition. Le bronze pour Sarah Léonie Cizik et 3 médailles d'or pour Luca Meredze, Faiza Mogdar et Shirin Boukli, la championne d'Europe qui savoure son succès.
Tous les combats aujourd'hui vont me servir pour les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, ben voilà, on a besoin de confiance, on a besoin de prendre des filles qu'on n'a pas l'habitude de prendre, donc de repérer des choses, d'apprendre des choses, pour du travail après pour les Jeux Olympiques. Le Grand Slam de Paris, ça me tenait à cœur réellement de le gagner. C'était comme les Europes, comme les mondes, comme les Jeux. C'était un step que je voulais accomplir. Et aujourd'hui, voilà, c'est la première de l'année et je suis contente de l'avoir gagnée. C'est juste génial.
La médaillée d'or Shirin Boukli, Clarisse Agbegnénou, 6 fois championne du monde, 7 fois vainqueur du Grand Slam de Paris, se présentera pour la première fois de ce tournoi aux alentours de 11h. Ce sera demain matin vers 9h pour Teddy Riner dans la catégorie des plus de 100 kilos de muscles.
Et bravo les filles et merci Guillaume Batin pour ce journal des sports.
Dans le journal de Corinne Audouin, vous êtes bien sur France Inter, il est 8h16.